trouver sur le net.
Et depuis que j'ai 18 ans, je suis en prison. Et là, je suis sorti il y a un mois. J'ai jamais travaillé, j'ai pas d'expérience dans le domaine professionnel.
Mais si on n'a pas de structure, en fait, qu'est-ce que vous voulez que les détenus fassent? Ils sortent dehors, s'il n'y a rien à faire, ils sont quasi sûrs de retourner faire des conneries.
Trouver du travail, même pour des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire, parfois c'est compliqué. Donc effectivement, c'est un frein en plus.
Les bonnes nouvelles qui sont tombées ce week-end ou en fin de semaine dernière, que vous voudriez partager au groupe? Oui.
Je crois que j'ai trouvé une formation.
Génial, au revoir.
Presse, rédacteur.
Bravo. Oh.
On a Wake Up Café de Montreuil. Moi, je suis un Waker. Un Waker, c'est un ancien prisonnier. J'ai fait 10 mois et je suis sorti il y a environ 2 mois. Alors, j'ai entendu parler de Wake Up Café en prison. Au début, on le fait pour un peu sortir de la cellule. Et après, on apprend à les connaître et on est convaincu de leur système, on va dire. Le but de l'association, c'est d'éviter la récidive. Ils nous donnent les codes pour pas revenir, pour travailler. Après, c'est pas de l'assistanat. Ils nous tendent les bras, on a besoin d'eux, mais ils nous laissent quand même faire les choses tout seuls. Pour pas qu'on soit complètement dépendant d'eux. Moi, j'ai jamais travaillé. J'ai réussi à faire un CV avec eux, une lettre de motivation, pas encore. Mais je pense que cette semaine, ça sera fait. Et ensuite, ça sera, on va postuler.
Je vous rappelle bien, du coup, on vous attend tous les matins entre 9h et 9h30. Et utilisez aussi, je vous rappelle, les temps du matin entre 9h30 et 10h30 pour nous solliciter, pareil, pour avancer dans vos démarches individuelles. Et si encore une fois, on n'est pas dispo, prenez les envies, prenez le pass. Vous êtes chez vous.
Ça nous apporte, pas qu'à moi, je pense, une stabilité. Déjà, le fait d'être là toute la journée, ça empêche les gens de récidiver, en tout cas. On arrive ici entre 9h et 9h30. 9h30, on fait une petite séance de sport comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, on fait des activités. À midi, on mange ensemble. À 14h, on reprend les activités. 16h, on finit. Et en général, soit on doit rentrer en semi, soit brasse électronique à 19h. Donc entre 16h et 19h, il ne reste pas grand chose. En tout cas, on n'aura pas le temps de faire des conneries.
Des questions sur cette semaine, des interrogations, sur les ateliers,
sur. Le mercredi, je suis absent, parce que j'ai
ouais.
Et dans la semaine, je sais qu'ils m'ont appelé, la mairie, ils m'ont envoyé un message pour m'en récupérer ma pièce d'identité, mon passeport, c'est tout.
C'est une bonne expérience.
Le plus dur en sortant, c'est d'être face au problème. C'est-à-dire que quand on est en prison, on n'a pas trop de problèmes. De toute façon, on peut rien résoudre. Problème de logement, problème d'argent. Il y en a plein qui n'ont pas, par exemple, leur carte d'identité, leur passeport. Sans ça, tu travailles pas. La carte vitale, sans ça, tu travailles pas. La sécurité sociale, je t'en parle même pas. Donc si tu fais pas tout ça, en sortant, t'es débordé, tu retournes dans tes conneries.
J'ai découvert Wake Up Café grâce à ma SPIP. Quand j'étais en détention, elle m'a dit que ça irait bien avec mon profil. Mon premier jour ici, c'était quand j'avais une permission. Je suis sorti 2 jours, je suis reparti en prison et quand je suis ressorti, je les ai recontactés. C'est en partie grâce à eux même que je suis sorti. J'ai eu un aménagement de peine, je suis sorti en liberté conditionnelle. Au niveau des démarches administratives, ils nous aident beaucoup. C'est nécessaire parce que ça nous fait faire quelque chose de nos journées. Je suis pas quelqu'un d'influençable, mais j'ai réfléchi à chaud des fois. C'est la crise, j'y vais direct au front, je dirais que chercher l'argent, ça veut dire... Des fois, je réfléchis pas trop.
Et ici, ça te donne un espace pour y réfléchir?
Ouais, ça me donne de nouvelles idées, de nouvelles ambitions.
Ça va être dur ou pas?
On peut partir d'ici que le jour où on a un travail. Donc, il y a moins de temps d'ennui. Et l'ennui, c'est la récidive. Jeanne, que le taux de récidive, il a combien si on va avant les gens qui vont pas avec eux?
Le taux de récidive en France, c'est 60% dans les 5 ans. Et 30% dans l'année qui suit.
Avec Wake Up?
Et nous, on a un taux de près de 80% des personnes qu'on accompagne ne retombent pas en prison.
Il y a 3 professionnels en face de vous, avec des parcours qui peuvent nous intéresser. Un téléphone, on s'écoute bien, on laisse bien parler tout le monde jusqu'au bout.
Donc il y a plusieurs postes, commençons par le conseiller clientèle. En plus, dans chaque boutique, il y aura 1 à 2 ou experts ou relais terrain. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question sur les postes dans une boutique?
Je vous remercie beaucoup parce que vous avez été trop précis dans vos explications.
J'ai trouvé ça super complet, j'ai appris plein de choses.
C'est très enrichissant, on a retenu le côté humain.
Comme d'hab, présentation du parcours de la semaine. Ce matin, vous avez eu présentation d'entreprise, comment ça s'est passé?
Super intéressant.
Okay. Cet après-midi, vous avez atelier culture générale avec Yacine que vous connaissez tous, qui est notre responsable pédagogique.
On enquête sur les tâches, les services de la maison.
Pour faire la cuisine, on commence avec demain avec moi.
Mohamed ouais.
Vas-y.
La détention, c'est effectivement 22 heures sur 24 dans une cellule du coup de 9 mètres carrés. Quand on est incarcéré en maison d'arrêt, on est souvent plusieurs dans cette cellule de 9 mètres carrés. Et donc, c'est un environnement qui est très peu propice à la mobilisation. On se retrouve très rapidement à rien faire dans cette cellule, à part les 2 heures de promenade. Et il y a moins d'un tiers des personnes qui bénéficient d'un emploi ou d'une formation en prison en France. Donc, il y en a beaucoup qui demandent, mais les places sont assez limitées. Donc, effectivement, il y a un vrai enjeu de se motiver soi-même soi-même et d'être vraiment acteur de cette incarcération. Et c'est un environnement qui du coup est très peu stimulant et intellectuellement et physiquement. Et donc il y a un vrai enjeu de se mettre dans le bain à la sortie et se réhabituer à prendre les transports en commun, déjeuner avec 5-6 personnes alors que ces personnes-là sont habituées à déjeuner solo et à cuisiner solo, réapprendre à faire la vaisselle pour un groupe, à prendre la parole devant, à formuler une idée, est quand même un peu un challenge. Et donc l'idée, c'est qu'on les accompagne au mieux à reprendre cette confiance, à se revaloriser.
Pourquoi c'est important de préparer sa sortie ? Ça nous permet d'avoir un objectif plutôt que d'attendre et au final de se dire « bon, bah, en attendant, je vais aller refaire ce que je sais faire ». Souvent, on a l'impression qu'on ne sait faire que ça. Et tout ce qu'on risque, en fait, c'est de retourner en détention. Ce passage à week-end permet justement de reprendre confiance en toi. Alors aujourd'hui, je travaille chez Decathlon. J'ai trouvé par le biais, justement, de cette association. Et Cap Café m'a surtout aussi préparé, en fait, à tout ce qui peut être entretien, l'appréhension que j'aurais pu avoir du monde du travail, à me présenter à de nouvelles personnes.
Tu penses que sans Cap Café, t'aurais pas été aussi à l'aise dans le monde de l'entreprise?
Je pense que ça serait pas passé de la même façon. Et je ne suis même pas sûr, en fait, que je serais allé à un entretien comme celui-là. En fait, dans ma tête, je me serais dit que vu d'où je sors, ça va être compliqué. Comment expliquer ce long passage où j'ai pas été en emploi? Oui, ça aurait été beaucoup plus compliqué de trouver un emploi comme celui-là.
Et en termes de compétences, de confiance, qu'est-ce que tu as appris sur toi ?
Bah, c'est pas parce qu'on a fait de la prison qu'on peut pas rentrer dans le monde du travail, qu'on est dans une case. Quand on parle entre nous, entre Waker, donc ancien prisonnier, les premiers jours, on a moins confiance qu'au bout d'un mois, un mois et demi.
La prise de confiance des personnes qu'on accompagne au fur et à mesure, ça se voit vachement, notamment en atelier collectif, où on a certaines personnalités qui se révèlent et qui se portent volontaires direct, alors qu'il y a 3 semaines, elles étaient encore un petit peu renfermées sur elles-mêmes. On a également des personnalités qui se révèlent quand on doit accueillir des nouvelles personnes sur site, qui proposent tout de suite un café, de faire visiter la maison pendant les simulations d'entretien d'embauche qu'on fait beaucoup. Pareil, on se rend compte que la personne est beaucoup plus à l'aise à l'idée de se présenter, de devant les recruteurs, de poser des questions aussi. Donc c'est à travers ces petits exemples-là qu'on se rend compte que les exercices qu'on fait au quotidien pour qu'ils regagnent confiance en eux, en fait, fonctionnent.
Ouais, merci beaucoup. Merci.
Donc on s'écoute là la deuxième partie de la conférence débat sur la situation dans les EPPJ. Il y aura une troisième partie. Et là, on commence dans cette partie-ci à entendre le public. Et c'est toujours intéressant d'entendre le public, je trouve. Bon, écoutez la première partie, vous aurez tous les noms des intervenants. Bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Pour bien comprendre quelque chose, il faut écouter l'entièreté. Et donc, commencer par la partie 1, c'est bien, je crois. C'est parti. Hein.
Toujours une difficulté dans les durées de séjour, hein, qui, voilà, toujours beaucoup trop long. Les 3 directrices qui sont en place sont motivées, mais elles sont de nouveau que 3 sur 6. Par contre, positif, il n'y a plus eu de service adapté depuis janvier, notamment parce que les normes d'encadrement ont été rectifiées et donc se sont alignées sur les autres IPPJ, ce qui fait qu'ils ont perdu quelques surveillants et surveillantes dans cette réforme-là. Mais par contre, paradoxalement, ça permet véritablement aux jeunes de pouvoir être de nouveau dans un service qui leur permet de sortir et de participer à des activités. On nous dit aussi que plusieurs groupes de travail sont mis en place à l'IPPJ et donc il y a toute une série de travail qui est en cours. J'ai parlé 23 minutes, je ne vous ai pas parlé des discriminations fondées sur le genre. Donc si vous voulez m'écouter là-dessus, vous devez venir suivre mes cours. Et voilà, je peux quand même en dire un mot.
Vas-y, moi j'ai pas besoin de 20 minutes.
Ok. Vas-y. Alors, j'en dis quand même un mot. Qu'est-ce qu'on dit dans le rapport sur, on a un chapitre qui s'intitule « Non-discrimination » dans lequel on parle de 3 types de discrimination. La discrimination fondée sur l'origine nationale et ethnique et sociale, hein, classiquement race-classe. Les discriminations fondées sur la religion et les discriminations fondées sur le genre et la sexualité. Je vais vous parler de ces troisièmes particulièrement. Alors, comment est-ce que ça peut donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de discrimination fondée sur le genre ? On parle de sexisme, d'homophobie, de transphobie, de violence psychologique liée au genre. Principalement, comment est-ce que ça peut se manifester en IPPJ ? Ça va se manifester par de l'exclusion, par de l'humiliation, par dans la communication, des choses qui vont être extrêmement normalisées, notamment beaucoup de blagues qui vont être normalisées dans les institutions. On souligne dans le rapport que les jeunes qui vont être donc les jeunes transgenres et les jeunes homosexuels peuvent être plus à risque de moquerie et d'exclusion. Autre élément, la valorisation d'une forme de virilisme aussi en IPPJ qui est retenue. Et particulièrement, ben, on souligne le manque de formation du personnel, mais aussi des jeunes, puisqu'il devrait y avoir des activités EVRAS, mais qui existent en partie, mais qui ne sont pas toujours mises en place, notamment en lien avec aussi la scolarité qui est compliquée. Alors, si je peux encore juste prendre la parole une minute, je vais dire une chose plus là en prenant ma casquette de chercheuse et en dépassant mon rôle de commissaire pour aller juste un tout petit peu plus loin sur les questions de genre. Un élément qui me paraît toujours étonnant, c'est que quand on parle de la question du genre en IPPJ, on résume habituellement cette question à la prise en charge des jeunes transgenres. Alors, la prise en charge des jeunes transgenres, c'est finalement la partie observable de l'iceberg, et on ne voit pas tout ce qui est émergé, puisque ben, les jeunes transgenres concrètement posent des questions aux magistrats et vont poser des questions très pratiques, de modalités pratiques en termes de prise en charge pour les équipes éducatives. Et donc c'est super important évidemment de prendre en compte cette situation-là, notamment parce que ils sont plus à risque de toute une série de violences sexistes et sexuelles. Notamment, la commission de déontologie, en 2024, a fait rendu tout un avis en demandant de renforcer, de mettre en place tout simplement des formations pour les professionnels pour accompagner les jeunes transgenres en IPPJ. Le 3 mars 2026, une question parlementaire a été posée au départ de la commission Enfance et Jeunesse de la Ligue des droits humains pour reparler de cette formation, pour voir si cette formation était véritablement rendue effective. La réponse était assez partielle en disant que oui, en 2024, il y avait eu une formation par la SBL genre pluriel. On ne sait pas à combien de personnes dans les IPPJ. Et puis depuis 2024, apparemment, en tout cas, il n'y a plus rien eu en termes de formation. Et il y a eu aussi apparemment un rappel du cadre juridique. Voilà la réponse qui avait été donnée par la ministre. Mais donc, en tout cas, on est déjà nulle part sur la question de la prise en charge des jeunes transgenres. On est déjà nulle part sur la formation véritablement des équipes de manière très transversale et beaucoup plus large des équipes éducatives pour accueillir ces jeunes. Alors si on voit ça de manière plus large, il y a plein d'autres questions en termes de genre. La mixité des équipes éducatives, elle a commencé en 2002. Elle n'a jamais été pensée de manière intégrée. Il n'y a jamais eu de travaux sur ces questions-là. On ne sait pas comment véritablement cette mixité se met en place et comment les personnes vivent ça de manière différentielle dans les équipes éducatives. On pense aussi au genre. On pense rarement au genre par rapport aux garçons. Or, 95% des jeunes qui sont en IPPJ sont des garçons. Et on ne pense pas à la manière dont les IPPJ vont construire et vont participer à la construction des masculinités. On a parlé des questions de virilité, renforcement de la virilité, valorisation de la virilité. Il y a des hiérarchisations qui sont opérantes à l'intérieur même des masculinités qui sont multiples. Quels sont les modèles de nouveau de masculinité qu'on promeut en IPPJ? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on travaille ça? Et est-ce qu'on travaille aussi à l'inclusion par rapport à ça? Il y a un traitement différencié de la délinquance des filles par rapport à la délinquance des garçons. Les filles sont beaucoup moins nombreuses en IPPJ, mais notamment parce qu'elles vont être prises en charge au niveau infra- et périjudiciaire. Et donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on donne toujours une réponse sanctionnelle à la violence et à la déviance des garçons? Voilà, il y a de nouveau plein de questions qui peuvent se poser là-dedans. Et finalement, tu vas parler probablement plus longtemps de la situation des filles à Saint-Servais. Il y a aussi énormément de questionnements par rapport à notamment le continuum des violences sexistes et sexuelles, la manière dont ça peut être traité dans le système protectionnel par rapport aux jeunes filles. Et voilà. Et je terminerai là-dessus parce que sinon je me préemballe dans un truc. Je vous remercie.
Mais Du coup, moi, c'est Déborah Unger. Je suis avocate en droit de la jeunesse. Donc, ça veut dire que je suis avocate de mineurs ici à Bruxelles qui sont considérés comme étant en danger, donc qui sont victimes de maltraitance, de négligence et qui ont des difficultés dans leur famille et pour lesquels un dossier va être ouvert auprès du tribunal de la jeunesse ou du SAJ dans le cadre du fait qu'ils sont considérés comme étant en danger. Et puis, et ce sont vraiment deux espaces qui sont morcelés, on y reviendra, je suis avocate des mineurs qui sont dits délinquants. C'est une expression que je rejette par son essentialisme du jeune dont on parle, mais des mineurs qui sont poursuivis pour des faits qualifiés infraction, aussi auprès du tribunal de la jeunesse. Et à côté de ça, une autre casquette, et que je mobiliserai quand même dans certaines choses que je dirai aujourd'hui, je suis présidente de la commission Enfance et Jeunesse de la Ligue des droits humains. Voilà, donc il a fallu réduire, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, et donc moi j'ai vraiment choisi d'aborder deux thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est le respect des conditions légales. C'est le fait qu'un jeune qui est placé en IPPJ, et c'est parfois sujet à débat, mais selon moi, que ça soit un régime ouvert ou que ça soit un régime fermé, c'est de la privation de liberté. Et la privation de liberté, elle ne peut s'opérer que dans un respect extrêmement strict des conditions légales. Et actuellement, ça n'est pas ça qu'on peut constater au niveau des jeunes qui sont placés en IPPJ. Et le deuxième point que j'aborderai, c'est la question des mineurs à la croisée des secteurs, et surtout des jeunes filles. Mais donc voilà, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Je vais surtout partir d'exemples concrets, parce que ça fait un petit temps déjà qu'on parle et que comme ça, ça va voilà, juste amener quelques situations qui me semblent percutantes. Pour ce qui est du respect des conditions légales, c'est de la privation de liberté. Le jeune est contraint d'être en IPPJ, même lorsque c'est un régime ouvert, je le répète, selon nous. Je pense qu'il est essentiel de pouvoir revenir au respect strict des conditions légales. Je donne un exemple tout simple. Un jeune qui est placé en IPPJ à régime fermé, au bout de 3 mois de placement, il doit y avoir un rapport médico-psychologique qui est rendu pour que le juge décide ou non de prolonger ce placement. On vous a parlé des sections CVOR, donc qui sont des sections d'orientation pour les jeunes, qui ont été pensées pour que les jeunes y restent 1 mois. Et au bout de ce mois, les jeunes doivent être orientés vers soit des régimes éducatifs en IPPJ, soit un retour en famille avec un accompagnement par un éducateur, soit d'autres types de structures, notamment de soins. Les IPPJ sont à ce point saturés, les places sont tellement difficilement accessibles, il y a des listes d'attente. Je ne dirais pas que les places manquent, parce que ça, je ne pense pas que ça soit le cas, mais je pense que par contre le régime est saturé et il se fait que lorsqu'un jeune, à la fin de son mois, de son premier mois de placement au régime en CVOR, donc en orientation, termine ce mois avec une orientation qui est d'aller vers un régime, vers une IPPJ à régime ouvert ou fermé, mais en section éducative, cette place n'est pas accessible directement pour le juge et donc ce jeune va être prolongé au sein du régime du CVOR. Et vous êtes déjà plusieurs à en avoir parlé, donc c'est dire, et je suis étonnée qu'une juge ait pu te regarder dans les yeux et dire que ces prolongations n'existaient pas parce qu'elles sont quotidiennes. Donc ces jeunes sont prolongés au sein du régime d'orientation alors qu'ils sont orientés. Et on peut même aller plus loin. Ces jeunes qui sont renouvelés au sein de cette section d'orientation à régime fermé, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, on n'a pas de rapport médico-psychologique parce que ça n'est pas le rôle des équipes du CVOR d'en faire un. Et certains de ces jeunes vont être encore prolongés alors qu'ils sont censés aller vers d'autres régimes. Mais en plus de cela, au niveau légal, il y a une interdiction de continuer à prolonger le régime fermé si on n'a pas de rapport médico-psychologique. Et donc, on a vraiment une condition est inscrite dans la loi qui ne va pas être respectée. Alors, c'est aux avocats de faire appel dans ces conditions-là, dans ces situations-là. Mais c'est vrai qu'on se dit que c'est effarant de réaliser qu'il y a, au niveau du tribunal, un non-respect des conditions légales lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté. Alors, évidemment, dans les conditions légales, et ça, Anne-Catherine l'a rappelé, il y a le fait que l'IPPJ, c'est censé, donc le placement en IPPJ, la privation de liberté, c'est censé intervenir en dernier ressort pour le temps, pour la durée la plus courte. À nouveau, ce sont des conditions légales qui ne sont pas respectées. Actuellement, et ça, ceux qui travaillent en IPPJ pourront, je pense, mieux nous le dire, moi, je le vois en tout cas dans mes dossiers, il y a une quantité de jeunes qui sont encore à l'IPPJ, qui sont renouvelés à l'IPPJ, car l'orientation pour eux, c'est un retour en famille accompagné d'un suivi éducatif. Et pour ça, on a des super équipes. À nouveau, le système est bien pensé, des équipes EMA, des équipes mobiles d'accompagnement qui sont des éducateurs qui vont aller poursuivre ce travail éducatif au départ du domicile familial. Mais il y a des listes d'attente pas possibles pour une place dans ces services. Et donc, il y a des jeunes qui sont comme ça renouvelés, qui sont prolongés au sein des IPPJ en attendant une place auprès d'un service EMA. Et à nouveau, mais dans ces cas-là, ça n'est pas l'orientation. Les équipes de l'IPPJ ont conclu que ce jeune n'avait plus besoin d'être accompagné au niveau éducatif au sein d'une institution IPPJ. Et pourtant, ces jeunes vont être prolongés parce qu'il n'y a pas de place au niveau des EMA. Et voilà, on a vraiment des situations. Je vous donne à nouveau un exemple qui, pour moi, a été vraiment parlant. Les jeunes qui sont au sein des IPPJ, ça on ne l'a pas encore dit, mais le sont dans deux phases différentes. Le sont dans la phase provisoire. Un jeune est suspecté d'avoir commis un fait qualifié infraction. Il peut être placé en IPPJ le temps de l'enquête, le temps de ce qu'on appelle la phase provisoire. Ensuite, on a une audience publique lors de laquelle ce jeune va être jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Et après cette audience publique, le jeune peut à nouveau être placé en IPPJ sur base du jugement qui aura été décidé par le juge. Normalement, cette phase provisoire, elle est censée durer 6 mois. Dans les faits, cette phase provisoire, elle dure moins d'un an et demi, ça je ne pense que je n'ai presque jamais vu, 2 ans, 3 ans. Et donc on a des jeunes qui sont placés en IPPJ sur base d'un fait qualifié d'infraction qu'ils sont suspectés d'avoir commis parfois 3 ans avant. Et donc là aussi, on est dans quelque chose où on est dans de la privation de liberté qui parfois qui peut être justifiée, mais suite au fait d'être suspecté d'avoir commis un fait qualifié infraction, et donc il y a un besoin de cadre, un besoin éducatif, un besoin de travailler quelque chose avec le jeune, mais on va poursuivre cette phase provisoire comme ça pendant des mois, voire des années. Et alors, d'une part, ça n'est pas légal, hein. Il y a cette phase provisoire de 6 mois dans la loi qui est inscrite. Alors, malheureusement, ça n'est pas obligatoire, ça n'est pas sanctionné, mais qui n'est pas respecté. Et d'autre part, on a aussi une perte de sens totale pour des jeunes qui vont être en IPPJ sur base d'un fait qui a parfois été commis 2 ou 3 ans auparavant et pour lequel ils n'ont pas encore été jugés. Voilà. Alors, j'en ai plein des exemples de situations dans lesquelles la loi n'est pas strictement respectée. Moi, ce que je voulais rappeler aujourd'hui, c'est que on est dans de la privation de liberté, et la privation de liberté, la loi doit être absolument strictement appliquée. Et je pense que parfois, au nom du système protectionnel, au nom du fait qu'on intervient dans l'intérêt de l'enfant, on en oublie ses droits et on oublie de respecter les conditions légales qui sont attachées à la privation de liberté. Et je pense que c'est absolument essentiel, et c'est quelque chose au niveau pénal qui serait considéré comme étant inadmissible de détenir pénalement un adulte en prison alors qu'on n'est plus dans les conditions légales. Et ça devrait l'être aussi pour les enfants. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais faire aujourd'hui. Oui, un autre exemple que j'avais, c'est la question des places d'urgence. Ces places d'urgence, elles ont été pensées pour des jeunes qui sont suspectés d'avoir commis des faits particulièrement graves, ou en tout cas très particuliers. C'est des places d'urgence qui ont été pensées pour des jeunes qui sont suspectés de faits liés au radicalisme violent, des infractions à caractère sexuel. Je ne dis pas que c'est bien pensé, mais en tout cas, c'est pour ça que ces places d'urgence ont été pensées. Actuellement, on se retrouve avec des jeunes qui sont suspectés d'avoir commis un vol avec violence, et on va rajouter des qualifications, par exemple, d'organisation criminelle. Le parquet va rajouter des qualifications d'organisation criminelle pour pouvoir avoir accès à ces places d'urgence, alors que ça n'est pas du tout la raison pour laquelle ces places d'urgence ont été pensées à la base. Donc voilà, moi, je veux vraiment emphaser cette question du respect des conditions légales et penser privation de liberté pour ces jeunes. Ça doit toujours quand même être ce qui guide nos réflexions. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question des jeunes à la croisée des secteurs. Ben, on l'a déjà abordé et il est très bien repris dans le rapport de la commission de surveillance. Vraiment, je trouve que le chapitre dédié est très intéressant. On a, et je pense de plus en plus, des situations de jeunes qui sont suivis d'abord par le tribunal de la jeunesse ou par le SAJ parce qu'ils sont considérés comme étant des mineurs en danger. Parce que c'est des jeunes qui ont vécu des situations de négligence et de maltraitance et qui ont déjà un dossier qui va être ouvert au niveau du tribunal pour cela. Ces jeunes vont à un certain moment déborder, transgresser. Alors, je ne partage pas tout à fait l'idée du délit prétexte. Pour moi, c'est plutôt la saisine qui va être prétexte. Dans le sens que ce sont des jeunes qui vont effectivement parfois transgresser, ne pas respecter la loi. Quand les jeunes sont placés au sein des institutions, c'est l'exemple qu'Anne-Catherine disait, hein, c'est des jeunes qui peuvent être violents, verbalement et physiquement, envers le personnel des institutions dans lesquelles ils sont placés, envers d'autres jeunes. Donc c'est des jeunes qui vont transgresser la loi. Il y a effectivement une infraction, en tout cas un fait qualifié infraction qui va pouvoir être commis. Mais parce qu'on est à court d'idées pour ces jeunes-là, le parquet va, alors que dans un cas autre, pour les mêmes genres de cas, on ne l'aurait pas fait, le parquet va ouvrir un dossier mineur délinquant, mineur 36-4. Donc c'est pour ça qu'on parle de saisine du parquet prétexte, selon moi, pour que le juge ou la juge puisse avoir la possibilité d'aller vers un placement en IPPJ parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et d'une part, c'est extrêmement violent pour les jeunes parce que ce sont des endroits qui ne sont pas, et ça dans le rapport de la commission de surveillance, ils en parlent très bien, qui ne sont pas adaptés pour ces jeunes-là. Et d'autre part, c'est aussi extrêmement violent pour le système des IPPJ, pour le personnel des IPPJ, pour les autres jeunes qui y sont placés pour des raisons éducatives. Parce que, en fait, ce sont effectivement des jeunes qui vont venir mettre à mal l'équilibre qu'il y a au sein des IPPJ. Et à ce sujet-là, alors il y a ce besoin d'intersectorialité qui est immense. Il y a le besoin de repenser. Alors il y a le secteur qui est extrêmement bouché au niveau du handicap, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'aide à la jeunesse tout court. Et donc, effectivement, on a tout le fait que le secteur est déjà bouché. On a ce besoin d'intersectorialité, de penser les choses ensemble. Moi, j'ai envie de donner un exemple particulièrement précis aujourd'hui parce que c'est un hasard, mais j'ai énormément de dossiers comme celui-ci. Ce sont des jeunes filles qui vont se mettre en danger, être en lien avec des réseaux, surtout des réseaux de prostitution, et qui vont donc être des jeunes filles qui sont en grande rupture. Alors moi, j'ai plusieurs dossiers de jeunes filles qui sont placées dans des institutions et qui mettent complètement à mal le cadre de ces institutions, parce que ce sont des jeunes adolescentes qui vont énormément fuguer, qui vont être en lien avec des réseaux qui peuvent être dangereux et les mettre en lien avec l'institution. C'est des jeunes filles qui se mettent immensément en danger elle-même. Et pour vous donner un exemple très précis d'un dossier dans lequel une de mes jeunes elle voulait fuguer de l'institution dans laquelle elle a été placée. En fuguant, elle a violemment bousculé l'un des éducateurs. Elle est partie. C'est une jeune fille qui se met effectivement en danger à répétition. Et la juge, ne sachant plus quoi faire, parce que l'institution est à bout, parce qu'il n'y a plus de respect du cadre, parce qu'on ne sait plus quoi faire, parce que ce sont des jeunes qui sont aussi en refus de soins et qui donc du coup refusent tout à fait l'encadrement qui peut être plus pédopsychiatrique, qui sont en rejet de tout cadre finalement, mais ne sachant plus quoi faire, on va ouvrir un dossier sur base de la violence que la jeune a pu avoir envers un de ses éducateurs au sein de l'institution. On va ouvrir un dossier 36-4, donc un dossier pour fait qualifié infraction. Et c'est une jeune fille qui va se retrouver placée au sein de l'IPPJ et actuellement à Saint-Servais, ça j'imagine que vous avez dû vous en rendre compte aussi au sein de la commission de surveillance, il y a pas mal de jeunes filles qui sont à Saint-Servais et qui le sont en fait parce que ce sont des jeunes filles qui se mettent elles-mêmes en danger. Et ce sont des jeunes filles qui ont besoin de contenance, qui ont besoin de cadre, mais coller une étiquette de délinquance à une jeune fille qui se met en danger, qui a un parcours qui est déjà constitué de plein de traumas, de plein de difficultés, un parcours extrêmement complexe et qui sont des jeunes filles pour lesquelles aussi les questions d'estime de soi extrêmement présentes et compliquées. Le fait de venir coller une étiquette de délinquance, c'est extrêmement violent pour ces jeunes filles et c'est incompréhensible. Et donc,
voilà, c'est une, l'utilisation du seul cadre aussi contenant qu'on a, qui est l'IPPJ, pour une population qui n'est pas du tout la population qui est visée à la base par le projet éducatif de l'IPPJ. Et donc, il y a vraiment toute une série de jeunes. J'ai donné l'exemple de ces jeunes filles qui se mettent en danger, mais il y a plein d'autres jeunes qui ont des difficultés, qui sont plutôt d'ordre psy, qui sont plutôt de l'ordre du handicap, qui sont complexes, qui sont de toutes ces catégories-là. Il y a toute une série de jeunes qui vont se retrouver en IPPJ parce qu'on n'a pas d'autre solution, parce que le secteur est bouché, parce qu'on ne sait plus quoi penser, et que l'IPPJ est le seul endroit suffisamment contenant pour ces jeunes pour qu'ils évitent de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Et ça, c'est totalement inadmissible parce que c'est extrêmement violent, comme je le disais tout à l'heure, tant pour le jeune que pour l'institution et pour les autres jeunes qui y sont placés. Et je terminerai quand même par dire que dans un dossier très particulier, certains avocats de la section jeunesse du barreau de Bruxelles se sont mobilisés pour intenter une action en responsabilité contre l'État belge. Alors je dis l'État belge parce que c'est vaste évidemment. Qui est-ce qui a été visé dans cette action? On a visé la communauté française parce que c'est l'aide à la jeunesse. On a visé la région bruxelloise et la VIC pour le secteur du handicap. On a visé le SPF santé. On a visé la COCOF. Donc voilà, il faut viser là. Mais on a intenté une action en responsabilité contre l'État belge pour mettre l'État belge face à ses responsabilités et dire, en fait, voilà, ces jeunes subissent des violences, ces jeunes sont, et là c'était le cas d'une jeune fille qui a vraiment des besoins extrêmement complexes, mais qui est placée en IPPJ depuis longtemps parce qu'on n'a pas d'autre place dans une institution plus adéquate. Et en fait, c'est une réelle violence envers cette jeune qui l'abîme et qui crée des conséquences et des dommages qui sont irréparables envers ces jeunes. Et donc, il y a vraiment cette idée de mettre l'État belge face à ses responsabilités et de dire votre inaction, alors c'est plus compliqué que ça évidemment, mais le manque de moyens dans le secteur, le fait que ces places n'existent pas, elles ont des conséquences dommageables sur les jeunes, elles abîment les jeunes, elles abîment le système, elles abîment les jeunes, et il faut qu'on puisse tenir l'État belge responsable de ça. Et donc il y a une action en référé qui a été intentée contre l'État belge, qui a été partiellement gagnée. Évidemment, elle va devoir se poursuivre et c'est des débats qui doivent avoir lieu beaucoup plus au niveau politique parce que c'est vraiment une question de manque de moyens. Mais voilà, il y a quand même des choses qui bougent. On essaye en tout cas de faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et voilà.
Du coup, je me permets de revenir sur une dernière petite chose. Donc, comme j'ai dit au tout début, je fais partie du Genepi Belgique. Donc, c'est une association qui bosse dans le décloisonnement carcérale. Donc on fait de la formation d'étudiants principalement sur les enjeux carcéraux, etc. Mais on va aussi beaucoup en prison où on fait des ateliers. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que, comme Chloé l'a dit, elle fait partie du conseil scientifique. Et quand on a eu une réunion il y a quelques mois, je dirais, à l'ULB, elle avait dit une phrase qui nous a marqué, que s'intéresser aux prisons et aux détenus, c'était super important, mais qu'il fallait ne pas oublier les jeunes et que ce sont aussi des sujets de droit, etc. Et la seule chose que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que toutes les choses qui ont émergé comme constat, etc., ce sont des choses qu'on retrouve également dans le monde carcéral au niveau des personnes détenues. Et je trouve ça un peu alarmant parce que là, on parle de jeunes, on parle d'enfants, on parle de mineurs, et ce sont les mêmes choses qu'on retrouve autant en prison que dans des institutions telles que les IPPJ. Donc je crois que c'est quand même un souci et je voulais te souligner parce que c'était un peu marquant pour quelqu'un qui intervient en prison. Donc voilà, merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment et je crois qu'ils ont hâte que vous les posiez toutes. Donc voilà, merci beaucoup.
Une question, mais à moins de récidive des jeunes placés en IPPJ, il est combien de plus ?
Qui a ce chiffre ?
Personne n'a ce chiffre.
Moi, j'ai pas un chiffre, mais je peux peut-être te donner un ressenti par rapport à ça. C'est du coup, il faut savoir qu'il y a un conseiller moral dans chaque IPPJ et qu'on se réunit une fois par mois. Et la première chose qu'on fait en arrivant en réunion, c'est se passer les bonjours des jeunes que tout à chacun a eu et qui est maintenant dans une autre IPPJ. Donc on a souvent, en tout cas, des vases communicants qui se font entre IPPJ, pas nécessairement parce qu'il y a des récidives, mais aussi de temps en temps parce qu'il y a des non-respects de conditions qui sont totalement aberrantes. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà eu un jeune qui a été replacé en IPPJ pour consommation de cannabis, alors que toutes ces autres problématiques, tout était OK. Il a reconsommé du cannabis, ça n'a pas plu à la juge, il a été replacé dans une autre institution pour une durée de 3-4 mois de souvenir. Mais du coup, la plupart de nos jeunes, sans avoir de taux de récidive parfaite, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on sait que c'est une sorte de pendule qui petit à petit se stabilise. Moi, je dis à mes jeunes, je sais très bien quand vous sortez, vous allez sûrement refaire des faits, ou en tout cas, vous allez réavoir des comportements à risque. C'est normal, ça fait partie du jeu, mais le but est que ça se stabilise de plus en plus. Mais du coup, voilà, il y a quand même des partages entre IPPJ. La plupart du temps, quand on a un jeune qui fait une IPPJ, vu qu'il est, et mes collègues l'ont déjà très bien dit, c'est vu qu'il est déjà dans le système, d'une certaine manière, au moindre petit écart qu'il va faire, on va lui faire retomber dessus. Moi, j'ai un autre jeune, un autre exemple, qui n'a rien fait. Pour le coup, ça a été avéré, il n'a rien fait. Mais il y a un de ses colocataires, dans le centre dans lequel il a été placé, qui avait caché des clés, etc. Vu qu'il, lui, était le seul du centre à avoir l'étiquette IPPJ, tout lui était retombé dessus, et c'est lui qu'on a replacé. Au final, son placement continue, parce qu'il est placé. Mais l'autre jeune n'a pas été placé. Et l'autre jeune a avoué que c'était lui. Le jeune a été disculpé de ça, mais son placement continue pour le moment, et je pense qu'il lui reste une semaine. Donc voilà.
Il y a aussi quelque chose là-dedans qui est, je trouve, très fort lié à ce que je disais sur le fait qu'on a des phases provisoires qui se poursuivent pendant 2-3 ans, et où, en fait, les dossiers des mineurs qui sont poursuivis pour des faits qualifiés infraction, vu qu'ils ne passent pas en audience publique, le dossier ne se clôture jamais. Et donc, on a effectivement des jeunes qui sont suivis avec des conditions qui sont parfois extrêmement strictes et multiples. Et donc, voilà, donc la récidive, est-ce que c'est le fait qu'une fois qu'on a été en IPPJ, on y retourne? Ou est-ce que c'est le fait qu'un jeune qui est placé en IPPJ va recommettre des faits qualifiés infraction plus tard? C'est aussi deux choses différentes.
Je pense juste que c'est très intéressant de répondre de manière très complexe à cette question et surtout de ne pas donner de chiffres. Je pense que c'est le plus prudent parce qu'en effet, derrière la question même de la récidive et la question même du passage à l'acte, il y a une multitude de choses des situations extrêmement complexes et des situations individualisées. Donc je remercie beaucoup de vos réponses qui ont été, je trouve, très adéquates.
Oui. Récidive. On peut retourner en IPPJ simplement par non-respect des conditions. Donc, et là, il y a vraiment tout et n'importe quoi qui peut se passer. Et donc, le fait d'avoir plusieurs séjours en IPPJ ne signifie vraiment pas qu'on a fait plus qu'un fait et que ce fait peut aussi être disculpé à la fin. Aussi. Donc, ça ne préjuge en rien. Donc, c'est quand même assez complexe.
À ce sujet, quand on discute avec les juges de la jeunesse, en tout cas avec certains d'entre eux, ils n'envisagent pas du tout le placement en IPPJ comme une peine qui doit répondre à un fait qualifié infraction, mais comme une mesure éducative parmi toutes les mesures éducatives. Parce que moi, à un moment donné, quand on parlait justement d'une jeune fille dans la traite des êtres humains, c'était elle est dans un cadre contenant, il n'y a pas d'autre solution, etc. Et moi, j'étais, mais on ne va quand même pas ouvrir un 36-4. Pour ça, enfin, c'est quand même, on parle pas d'une mesure d'aide, on parle d'une mesure qui relève de la justice pénale pour mineurs. Et c'était, écoutez, Madame Rasson, c'est quand même vraiment la meilleure solution. Vous n'imaginez pas, à Saint-Servais, font du super boulot. Ok, maintenant, on va à la recherche d'un fait qualifié infraction. Madame, vous fouillez la chambre, vous essayez de trouver de la drogue, véridique, hein. Vous essayez de trouver de la drogue. On essaie de capturer ces trucs d'écran, Snapchat, etc. Qu'elle fait du recrutement, et on finira par trouver un fait. Un mois après, il y avait un fait, le dossier était ouvert, était mis à disposition, elle est partie à Saint-Servais. Mais dans l'idée de la juge croit vraiment que c'était la meilleure mesure éducative pour elle, en perdant de vue le fait qu'en réalité, on sort de l'aide pour aller vers une prise en charge de la délinquance. J'aime pas ce mot-là non plus, mais c'est quand même ça dont on parle, parce que sinon, on écrase trop si à un moment donné, on n'utilise pas aussi ces mots-là. C'est de dire, en fait, là, maintenant, elle a une étiquette de délinquante, tout ça dans une idée de l'aider, quoi.
Ce que j'aime pas, c'est mineur délinquant.
Oui, c'est ça. La délinquance, ça va. Vous voulez ajouter quelque chose?
Vous avez apporté une partie de ce que je voulais dire, mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire quelle est la définition qu'on donne à récidive, sachant qu'il y a plein de réalités qui peuvent être derrière. Il y a aussi la question de récidiver, est-ce que c'est simplement avoir commis le fait, oui, non, mais est-ce que si un fait a été commis, est-ce qu'il était de la même gravité? Est-ce que la fréquence est identique? Est-ce que le temps avant une nouvelle récidive est peut-être plus long qu'avant? Un placement en IPPJ, ou quelle que soit la mesure, ne peut souvent pas répondre à la complexité et au profil de ces jeunes qui ont différentes problématiques. Et donc se dire qu'une mesure pourrait en elle-même seule réduire la récidive est complètement, pour moi, fantasmatique. Et au-delà de ça, c'est de se dire que la récidive, c'est la question qui anime beaucoup les politiques, mais la récidive, en fait, est une variable qui arrive tout à la fin d'un processus de changement. Et donc, c'est de se dire que les mesures protectionnelles viennent stimuler plein de choses chez les jeunes. Et de base, elles sont là pour lui amener confiance en lui, estime de soi, lui permettre de faire preuve de résilience par rapport à des traumatismes qui ont été vécus, etc. Et donc, parler de récidive, c'est vraiment mettre la focale sur la fin d'un processus de changement qui vient aussi nier tout ce qui s'est passé dans le processus du jeune pour évoluer. Et d'ailleurs, moi, c'est une raison pour laquelle je n'ai pas exploité les données de récidive dans ma thèse. J'en ai pour une certaine temporalité, mais je ne les ai pas exploitées telles quelles parce qu'un chiffre sans être animé par des discours de jeunes ou des contextualisations peut tout à fait être exploité et à mauvais escient. Mais par contre, c'était une demande des professionnels, donc ça, j'ai pu faire des retours personnellement au sein des IPPJ, de dire on voit tout le temps certains jeunes qui reviennent, et donc on a tendance à mettre le focus là-dessus. Mais on n'est jamais informé des jeunes qui, par contre, ne reviennent pas ou qui peuvent dès lors récidiver par ailleurs, mais ne vont peut-être plus forcément avoir une mesure de PPJ. Et donc, parfois, de vouloir avoir un retour sur, ben, okay, sur les jeunes que j'ai accueillis, quels sont ceux qui ont recommis finalement un fait qualifié infraction au sens vraiment de nouvelles infractions détectées par les services de police. Donc ça, c'est aussi une réalité que parfois les professionnels de terrain peuvent renvoyer. Voilà. Mais je pense que je vous ai juste complété.
Sarah, tu voulais poser une question?
Oui, je voulais savoir comment la commission de surveillance est perçue par les différentes directions des IPPJ et quels sont vos rapports entre les commissaires et les éducateurs et surveillants sur place?
Oui, c'est une bonne question. Je sais que par rapport à la commission de surveillance en prison, il y a tout un travail de thèse qui a été fait sur la question, donc c'est pas mal intéressant. Nous, on n'existe que depuis 2 ans, donc on n'a pas encore un retour, en tout cas, de ce type-là. On ne peut pas en bénéficier. Je pense que le jeu, c'est quand même compliqué. On vient quand même avec... Voilà, déjà, on s'appelle commission de surveillance. Le titre est quand même un peu naze. On a, au tout début, été pas mal assimilé au travail de l'administration, plutôt de type... inspection, voilà, qui était mis en place par l'administration générale de l'aide à la jeunesse. Donc toute une série de personnes vraiment de la GAGE qui venaient en IPPJ pour faire plus un travail d'inspection. Et on a été au départ un peu assimilés à eux. Donc il a déjà fallu au départ faire un travail de détricotage pour leur expliquer qu'on n'était pas l'administration de l'aide à la jeunesse, qu'on était un service indépendant, qu'on travaillait donc avec le délégué général aux droits de l'enfant et que c'était donc le président de notre commission. Donc ça a déjà été un premier travail. Un autre travail est qu'on est aussi assimilé à la commission de recours, qui est aussi une autre instance, qui a d'autres types de rapports avec les IPPJ. Donc parfois, on a aussi ce contact-là et cette assimilation-là avec laquelle on doit travailler. On a des bons contacts de manière générale avec les directions. On prend le temps de discuter avec eux. Je pense que là, moi, je serais très intéressée, en tout cas, d'avoir aussi un premier échange. On va avoir un premier échange. On va leur présenter le rapport dans 2 semaines. Donc, à ce moment-là, on aura aussi un retour plus qualitatif sur le travail au long terme. Et c'est la première fois aussi qu'on va vraiment leur présenter quelque chose de très concret, et qualitatif. Donc, je pense qu'à cette occasion-là, on pourra avoir un premier rapport et un premier échange. Mais de manière générale, on a quand même beaucoup d'échos aussi de gens qui ne sont pas contents qu'on soit là. Et je veux dire, d'une certaine manière, c'est évident, enfin, c'est quand même le jeu. On vient, c'est très important pour les états de droit d'avoir toute une série de commissions de surveillance comme ça, d'avoir des services indépendants qui vont dans les lieux privatifs de liberté. C'est quand même fou de se dire qu'on n'existe que depuis 2 ans. Enfin, ça fait vraiment peu de temps. Ça veut dire qu'avant ça, les IPPJ, elles n'étaient pas contrôlées de manière indépendante. Donc c'est quand même...
Et pas toujours considérées comme des lieux privatifs de liberté. C'est ça aussi, ça fait partie du même...
Sans dire qu'on ne va pas dans les hôpitaux, on ne va pas dans les centres fermés. Enfin, il y a toute une série d'autres endroits dans lesquels on ne va pas. Mais voilà, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont réticents. On le voit, enfin, physiquement, il y a certaines IPPJ dans lesquelles on rentre, les éducateurs sont super fermés, ils parlent entre eux, ils ne nous adressent pas trop la parole. Là, on sent bien qu'on n'est pas toujours les bienvenus. Quand on va dans des IPPJ où il y a énormément de problèmes, énormément de tensions, on vient parfois à des mauvais moments, on rajoute de la tension, ça, c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc on y va à petits pas, on essaye de discuter. Et l'objectif, c'est aussi... C'est aussi une préoccupation qu'on a à la commission de surveillance, de travailler le relationnel avec les équipes, travailler le relationnel avec les éducateurs, les éducatrices, les équipes éducatives de manière générale, mais aussi les directions. Et je pense que, enfin, voilà, de leur faire... de pouvoir travailler à ce qu'ils comprennent aussi qu'on puisse être un levier pour certaines choses. Et une fois qu'ils comprennent qu'on peut être des leviers pour certaines choses, il y a toute une série de choses qui changent. Mais après, le jeu restera quand même celui-là. Voilà.
Et dans la commission.
Et quoi ?
Et dans la commission.
C'était quoi, dans la commission ?
Non, c'est ça.
Tu veux dire, Nolan, si on a voté Rennes, on est bien reçus.
Par les conseillers, oui. Mais par les éducateurs, au début, pas du tout. Donc au début, il y avait une méfiance. Alors pour expliquer cette méfiance, déjà, parce que je n'ai pas pu parler de ma thèse, donc je reprofite un peu, tiens. Mais du coup, il faut se dire aussi que donc on a des éducateurs, des équipes éducatives qui sont quand même en souffrance en ce moment, beaucoup moins que les jeunes quand même. On va remettre l'importance quand même sur les jeunes et ce qu'ils vivent. Mais voilà, on a quand même une souffrance aussi des équipes éducatives parce qu'on a un système qui est très violent avec eux aussi. Beaucoup de violences qui sont répercutés sur les jeunes sont expliqués aussi par ce système qui est très violent envers les adultes. Ça ne justifie pas, ça explique seulement. Attention, c'est deux choses différentes. Mais du coup, ces éducateurs, ces équipes éducatives, quand ils faisaient des demandes concrètes, moi j'ai beaucoup d'éducateurs, quand je vais vous parler de faits de violence de certains éducateurs, c'est des minorités des éducateurs, des équipes éducatives qui vont commettre ces violences. La plupart des éducateurs essayent de faire à bien aussi, etc. Mais quand ces éducateurs qui essayent de faire à bien, qui demandent plus en plus de moyens, qui veulent avoir plus de temps avec les jeunes, qui veulent qu'on prenne en compte leurs considérations et qu'ils soient rajoutés dans les discussions qu'il peut y avoir sur qu'est-ce qui sera décidé sur les IPPJ et qui ne sont pas concertés et que comme seule réponse politique d'une certaine manière qu'on leur donne, c'est qu'il y a une commission de surveillance qui débarque. Eh bien oui, en effet, là, il y a une méfiance qui s'installe. Donc c'est aussi quelque chose qui est à noter. Donc au début, il y avait une méfiance. Il y a même eu des ingérences. Il y a clairement des éducateurs et des... Je vais regarder au masculin, enfin, c'est souvent des éducateurs. Mais du coup, il y a souvent des éducateurs qui faisaient des pressions sur les jeunes pour ne pas raconter certains faits où ils essayaient d'avoir les informations. C'est un peu comme les conseillers. Hein. Dès qu'on parle avec un jeune, après, il y a les éducateurs qui commencent à aller un peu autour du jeune. Et de quoi t'as parlé ? De quoi t'as parlé ? Le jeune, il reste bouche bée, etc. Il ne va pas dire un mot. Mais en tout cas, il y avait des réelles pressions qui étaient mises en place. Peut-être que mon ancien collègue Amine pourra aussi souligner ça. Mais du coup, voilà, maintenant, là, ça fait 2 ans. Dans la plupart des sections, il y a une acceptation qui se fait. Il y a même une préparation où ils disent bien aux jeunes en amont de dire « Tiens, c'est le moment de réfléchir un peu à ce que vous voulez discuter avec les commissions de surveillance ». Pas dans toutes les sections. Bizarrement, il y a une section que je ne citerai pas en ce moment où c'est un peu la crise, où voilà, il y a à nouveau une méfiance qui se lance. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais du coup, voilà, donc ça évolue. Mais en tout cas, au début, ouais, il y avait une réelle méfiance et il y avait même une certaine opposition qui pouvait s'exprimer.
Amine ?
Oui,
tu veux dire quelque chose ? Pas obligé, hein ?
C'est vrai que quand la commission de surveillance est arrivée, les adultes, les éducateurs ou l'ensemble des équipes, les surveillants aussi, les surveillants d'ailleurs que souvent on oublie, mais dans la vie des jeunes résidents en IPPJ, les éducateurs, donc l'encadrement éducatif s'arrête à 22 heures. Après ça, ils sont mis en chambre. Mais il faut, la réalité, c'est qu'ils restent en contact avec les surveillants par le biais de parlophone. Et donc les surveillants ont beaucoup de contacts avec les... Je dis ça pour illustrer le fait que les surveillants sont en lien et ont beaucoup de contacts aussi avec les jeunes. Et eux avaient beaucoup de méfiance, en tout cas des retours que j'ai eus, avaient beaucoup de méfiance à l'égard de la commission de surveillance. Au fur et à mesure du temps, et je pense des visites des commissaires... qui ne demandait pas à rencontrer uniquement les jeunes, mais l'ensemble des acteurs d'équipes, de la direction, les formateurs, ils ont compris que le but de la commission était de faire un rapport assez global sur la vie en IPPJ et au regard des droits des jeunes. Mais donc ils étaient aussi, je pense que, je ne sais pas si les commissaires peuvent le confirmer, mais... Au fur et à mesure du temps, les personnes qui travaillaient dans les IPPJ étaient plus dans le dialogue, étaient posées peut-être beaucoup plus avec moins de méfiance. Et, Et voilà, et c'est vrai que les conseillers en tout cas moi quand j'étais conseiller, c'est vrai qu'on a cette chance d'être dans une bulle de confidentialité, et donc on avait un retour très très concret sur beaucoup de choses qui, je pourrais donner plein de retours sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, d'éléments par rapport même au dessaisissement, il y a des même à la récidive, il y a tellement de choses à dire, et je rejoins ce qu'a dit Chloé sur la complexité d'évaluer la récidive, parce que en IPPJ, quand un jeune se retrouve à devoir revenir dans une normalisation, revenir vers la vie normale, il y a le milieu scolaire. Et le milieu scolaire ne joue pas forcément toujours, n'est pas toujours de bon relais, où il est difficile de trouver une école, et puis des fois on trouve une école par défaut. Et ce qui pousse le jeune à aller vers le décrochage scolaire, parce que c'est pas vraiment, il l'a pris juste pour faire plaisir à la juge et répondre à des conditions. Donc il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui sont complexes, mais. Je vais m'arrêter là, sinon je vais le tirer en long. Voilà.
Moi ?
D'abord. Tant que je suis là, après je prends.
Ah, oui. C'est en fait, simplement, parce que je me rends compte que j'ai été mal comprise dans ma question, là tout de suite, et je me rends compte à quel point, en fait, une simple question peut être vue de différentes manières. Moi, à la base, juste pour contextualiser, pour qu'on comprenne où je voulais en venir, en fait, je suis institutrice de formation. Je travaille depuis 20 ans dans l'enseignement, plus de 20 ans même. Et j'ai eu la chance ou le malheur d'avoir deux aînés qui ont décidé d'aller explorer la rue, en fait, et qui se sont retrouvés là depuis 2 ans à peu près, d'IPPJ en IPPJ, pour des raisons différentes. Et donc, quand vous avez parlé tout à l'heure, ben, moi, ça a clairement fait écho à des choses que j'ai pu entendre au bout du téléphone, parce qu'on apprend ce que vivent nos enfants, ben, soit par les appels, les 3 appels qu'ils ont par semaine. Le temps en été où les équipes étaient réduites, effectivement, moi, mon enfant était 23 heures sur 24 en champ pendant un mois. Et quand il repasse devant la juge, on lui dit, ben, écoute, comme il n'y avait pas, on n'a pas su travailler avec toi pendant un mois, ben, tu y retournes parce que on n'a pas su te mettre en projet. Et est-ce qu'il y aura du monde le mois prochain? Ben, on ne sait pas trop. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que comme on n'a pas su travailler avec toi, tu retournes quand même. Après 2 ans de passage en IPPJ, j'ai seulement appris maintenant qu'en fait, ce n'était pas considéré comme une sanction. Donc là, je l'ai appris au dernier passage, il y a un mois, parce que mon fils, qui venait de passer 3 mois en attente à Saint-Hubert et qui était sur liste d'attente, en fait, pour une autre IPPJ fermée, demande si, quand il y aura la place, il pourra, le temps qu'il a passé à Saint-Hubert pourrait être décompté de sa peine en fermée. Et là, la juge s'étonne. Pourtant, c'est une juge, personnellement, que j'apprécie beaucoup. Mais s'étonne et dit, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas du tout un emprisonnement, soyons clairs. Tu es là pour être dans un lieu d'éducation. Et donc, tu es là pour apprendre des choses. Et mon fils qui est à côté, qui dit, mais il n'y a personne pour m'éduquer là-bas. Il n'y a pas d'éducateur, il n'y a rien, il n'y a personne. Et la juge qui fait, non, mais t'inquiète pas, bientôt tu auras ta place et tu verras. Il a encore passé un mois, il vient seulement d'avoir sa place. Quand il va sortir d'IPPJ, il faut savoir qu'il y est rentré, donc il avait à peu près 15 ans. Il va sortir, il en aura 17. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question que j'ai posée depuis le début, et je comprends qu'on n'ait pas de moyens, mais en même temps, on ne dit pas que c'est une sanction. Je dis, moi, Amy, je préfère, comme en prison, on dit, voilà, tu as commis quelque chose de très grave ou quelque chose de grave, tu prends 6 mois, tu prends 1 an, tu prends 2 ans, et au moins, on voit clair que là, en fait, où il dort, il ne sait pas quand il va sortir. Il regarde les barreaux de sa chambre, il ne sait pas si c'est la dernière nuit. Il ne sait pas si 2 mois plus tard, il sera encore là, parce qu'il ne comprend même pas ce qu'il doit faire, parce que lui, il a l'impression que ça se passe bien, les éducateurs sont sympas, ils rigolent avec lui, etc. Mais au moment du rapport, oui, mais en fait, tu as fait le loup hier soir avant de dormir, et machin, et truc, et bazar. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, l'après, le problème, c'est qu'il va se retrouver à 17 ans, il a réussi son CE1D, d'ailleurs, c'est un enfant qui... heureusement pour lui, est intelligent, mais ça ne lui sert pas, malheureusement. Et donc, va se retrouver en 3e secondaire, sans savoir où aller, parce que mon aîné, quand on l'avait remis à l'école, le problème, c'est que quand on arrive dans une école et on dit « mais t'as fait quoi pendant 2 ans ?»« En fait, j'étais en IPPJ. »« Ah !» Et donc, du coup, on revient à l'école et c'est « oui, mais écoute, t'as déjà de la chance qu'on te prenne. » Et parfois devant plein de gens. Donc, moi, tout à l'heure aussi, ce que j'ai entendu de toute la crise de l'IPPJ, on change IPPJ, on met école, on a la même crise. C'est-à-dire turnover, absence, équipe dont on compte que sur la créativité et l'engagement, manque de moyens, bâtiment vétuste, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que c'est là que ça commence et qu'il n'y a aucun partenariat. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. Je vous dis, en quasiment 2 ans d'IPPJ, Frépon, Saint-Hubert, Wautébren, enfin, tout, j'ai tout découvert. Je ne savais même pas que ça existait, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait le monde et puis tout ça est entouré d'une limite. Et puis tout d'un coup, on a le pied là-dedans, et on découvre plein de métiers, on découvre plein de gens, et tous des gens dépassés, et tous des gens qui dépendent les uns des autres, et tous des gens qui n'en peuvent plus de rien. Et en fait, on a ces gamins-là qui évoluent comme ça, en parenthèse, et puis un jour, ils reviennent, et on dit, maintenant, on espère que tu as été bien éduqué là en institution, et que maintenant tu as bien compris, et que maintenant tu vas. Mais avec quoi? Avec quels moyens? J'en parlais à son avocate, elle me dit, bah, comme beaucoup, il va, à 18 ans, il va sûrement aller au CPS, et puis à un moment donné, il va se rendre compte, et puis il va travailler quelque part. Ouais, mais attends, c'est pas ce qu'on veut pour un jeune. Et je parle même pas que pour mon fils. Moi, je me bats dans les écoles pour. Et comme par hasard, comme on dit, il y a le mal-chaussé, là, le cordonnier, ben c'est moi. Et donc, en fait, le truc, c'est que je me retrouve avec des enfants comme ça. Et là où je veux en venir, parce qu'il y a quand même une issue dans tout ça, c'est que j'ai repris mes études, là, pour faire le master en sciences de l'éducation à l'UC Louvain. Évidemment, c'est passionnant. Mais dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire un stage, en fait, dans une assoce qui s'occupe de l'accrochage scolaire et qui a eu l'occasion récemment de faire un partenariat avec une IPPJ. Et en fait... Je me dis, en fait, c'est là-dedans qu'il faut, je sais pas. En fait, donc là, l'idée, c'était de faire s'exprimer les jeunes. Et surtout, ce que je trouvais très beau, c'est leur permettre de se réapproprier leur histoire. Là où ils sont devenus uniquement des dossiers. Parce qu'en fait, ils n'existent plus que par les dossiers de la juge. Ils ne sont plus personne, ils sont un dossier. Et là, c'est se réapproprier son histoire. C'est de nouveau pouvoir dire qui je suis, partager qui je suis. Donc, et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on leur a demandé d'évaluer le projet. Enfin, c'est pas moi, j'étais observatrice. D'évaluer le projet par la suite. Et donc, ils se sont mis à écrire. Ils ont beaucoup écrit dans le cadre de ce projet. Et ce qu'ils ont dit, c'est que depuis qu'on a pu... donc, il y avait plein de jeux de coopération entre groupes, etc. Et ils ont créé une nouvelle dynamique de groupe, de soutien entre eux. Et ce qui en ressortait, c'est que j'ai réussi. Je ne savais pas que j'étais capable de m'exprimer comme ça. Ça va me servir dans ma vie, ça va me servir à l'école, ça va me servir auprès de ma famille. Et qui étaient les animateurs? C'était eux-mêmes des jeunes... qui leur ressemblaient, auxquels ils pouvaient aussi s'identifier, mais qui avaient réussi à sortir. Soit ils étaient passés par des parcours compliqués, ou soit ils connaissent des gens qui... Et il y avait quelque chose là de lumineux, en fait, dans ce projet. Et je trouve que c'est ce qui manque, c'est la relation entre toutes ces institutions. Chacun se débrouille de son côté, dans sa merde, excusez-moi du terme, avec des enfants qu'on citait sac poubelle et tout. Mais c'est presque ça, en fait, de la manière dont ils sont vécus. Et un système qui met des mots, qui choisit des beaux mots pour parler de choses monstrueuses. Et voilà. Non, c'est pas un emprisonnement, c'est de l'éducation. Mais moi, je vais là-bas, je me fais fouiller, en fait. Je passe dans un truc, il y a des murs, il y a des barbelés, les fenêtres, il y a des barreaux. Vous parlez de nourriture. Moi, mon fils, par exemple, il avait dit à la psy, je refuse de vous parler tant qu'on ne me sert pas à manger correctement, parce que c'est dégueulasse. Bon, alors, il est particulier, il est parfois très drôle. Mais en l'occurrence, c'est pour vous dire à quel point, pendant un mois, rester en chambre toute la journée, et puis on te dit, c'est un système éducatif, et tu retournes parce qu'on n'a pas su s'occuper de toi. Voilà. Ça, c'est moi, personnellement, c'était ce que je voulais dire tantôt quand je parlais de la récidive. C'était qu'il y a des pays, je pense, dans le Nord, où il y a quand même moins de récidives. Dans le milieu carcéral, vous avez le même taux de récidive. Et je ne parle pas... Là, je ne mets pas le focus sur le jeune, en fait. Je mets le focus sur est-ce qu'on ne se trompe pas, en fait. Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque dans cette question d'accompagnement. Le système scolaire, les études PISA le montrent. Et à un moment donné, il faut investir là-dedans, en fait. Et tant qu'on compte sur la créativité, le bon engagement des gens, en fait, je suis désolée, mais tout va s'essouffler. En fait, et ces jeunes, ça va devenir des jeunes qui vont poser problème à l'ensemble du monde. C'est celui qui va t'agresser plus tard parce qu'il n'aura pas trouvé de travail, qu'il n'aura pas trouvé. C'est un danger pour vous comme pour moi, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais contextualiser, en fait.
Je suis aussi membre de la commission de surveillance. Et je voudrais vous dire, madame, que des témoignages comme le vôtre, on en aurait besoin à la commission. Alors, si ça vous vient à l'esprit d'enregistrer ce que vous avez dit, de réenregistrer, puisque c'est des. Une fois fait, voilà. Si vous acceptiez qu'on nous transmette votre récit, c'est important aussi, parce que tout ça a à voir avec le respect des droits des jeunes également. J'avais une question pour M. Mazur et une question pour Maître Inger. Vous avez dit, M. Mazur, que dans la bouche des jeunes, le régime ouvert, c'est comme un internat avec des règles un peu plus militaires. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en régime fermé, alors ça, c'est complètement militaire. En tout cas, l'IPPJ, où j'ai vu ça, il fallait aller au préau. La règle, c'est on sort de sa chambre, on se met au garde-à-vous à côté de la porte. Et quand tout le monde fait silence, alors on sort en file indienne jusqu'au préau. Alors,
Ma question, c'est est-ce qu'il y a un lieu où on discute des méthodes éducatives, tout simplement, qu'on applique en IPPJ ? Ou est-ce qu'il suffit qu'un éducateur ait un diplôme d'éducateur, et puis ça marche comme ça, il fait comme il veut ? Pour mettre un G, vous savez sans doute qu'il y a une controverse à propos de l'application du décret du 18 janvier 2018 à Bruxelles. Et que donc beaucoup de juges de la jeunesse bruxellois disent « Quand moi, je place un jeune en IPPJ, c'est sur la base de la loi de 1965 et pas sur la base du décret. » Et dès lors, ces juges-là en déduisent qu'ils ne doivent pas appliquer le continuum éducatif, donc le système Sévor, intermède, éducation, etc. Et ils disent « Nous, on met... le jeune, là où il y a de la place. Et si c'est dans un Sévor, c'est bien. Si c'est en intermède, pourquoi pas ? Est-ce que ce n'est pas ça qui explique aussi qu'on ne respecte pas le système du continuum ?
La réponse, la fois prochaine.